الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة الثاني من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس التاسع عشر من كتاب الأصول الثلاثة. Nous sommes le 25 octobre 2014 et nous entrons dans le 19e cours de l'étude du livre Les trois fondements de l'islam et leurs preuves. Et la semaine dernière, nous sommes entrés dans le troisième fondement qui est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est basé sur trois fondements. La connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de l'islam, les règles, ce qui est interdit, ce qui est illicite. Ce sont les fondements de la religion. Et donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons montré que chaque croyant doit connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au minimum, il doit savoir 5 choses. Et on les a dit. Premièrement, il doit connaître son prénom, le nom de son père, de son grand-père. Au minimum, Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Et savoir d'où est-ce qu'il vient. Il doit savoir d'où est-ce que venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas normal qu'un musulman ne connaisse pas d'où vient le prophète alayhi salatu wa sallam. Et aussi, on a vu qu'il est venu de Mecca, il est né à Mecca sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'il a immigré? À Médine, al-Madina sallallahu alayhi wa sallam. On doit connaître l'âge qu'il a sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins l'âge qu'il a eu, combien de temps il a vécu, quand est-ce qu'il est devenu prophète, à quel âge, à 40 ans, jusqu'à 63 ans, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'Allah lui a révélé comme verset, comme ayah? Premier verset qu'Allah lui a révélé, Iqra, lis les 5 premiers versets de surat al-Alaq, l'adhérence, surat numéro 96 du Coran. On a vu aussi qu'on doit savoir pourquoi est-ce qu'il a été envoyé. Il a été envoyé comme tous les autres prophètes pour appeler les gens à adorer Allah Azza wa Jal, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître sa puissance, sa grandeur et avant tout son droit à l'adoration Azza wa Jal, le droit à l'adoration d'Allah. Il a été envoyé pour inviter les gens à reconnaître la ma'bouda bi haqqin illallah, qu'aucune divinité en vérité ne mérite l'adoration à part Allah. La tas'al illallah, la tad'u illallah. Tu ne demandes qu'à Allah, tu n'invoques que Allah. C'est pour cela qu'il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit, قال المؤلف رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فاهجر الرجز هي الأصنام وهجرها بمعنى تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 sallallahu alayhi wa sallam.
Si quelqu'un peut... Est-ce qu'il y a un livre ici en français?
dans l'armoire. Non. C'est bon. Donc, il dit, rahimahullah, Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre le polythéisme et pour prêcher l'unicité d'Allah. Tous les prophètes ont été envoyés pour cela. Ils ont tous la même kalima, la même parole. « Ya qawmi ibudullah, ma lakum min ilahin ghayru. » Ô mon peuple, adorez tous Allah. Vouez le culte à Allah, n'adorez qu'Allah. Vous n'avez aucune divinité en dehors de lui, en réalité, qui mérite l'adoration. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui nous a créés. خلقنا وحده ورزقنا وحده ودبر أمورنا وحده وحفظنا وحده وعلمنا وحده. Il nous a créés seuls. Il nous a donné rizq, la subsistance, seul. Il nous a enseigné, il nous a guidés. Tout cela, il l'a fait seul. Donc il est le seul à devoir être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et adorer un autre qu'Allah est la pire des injustices et la plus grande des ingratitudes envers Allah. أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. Et c'est pour cela qu'ils ont tous été envoyés. Et Allah تبارك وتعالى lui a dit يا أيها المدثر قم فأنذر. Ce qui veut dire ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Pourquoi est-ce qu'Allah l'a appelé comme ça? Parce que quand il a reçu la visite de Jibril alayhi salam pour lui annoncer qu'il est devenu un prophète, il est descendu de la grotte où il était et il a couru chez sa femme Khadija radiyallahu anha. Et il a dit aux gens de sa famille Zammelouni, zammelouni, dathirouni, dathirouni, ay, rattouni, rattouni. Couvrez-moi, couvrez-moi. Et donc quand ils l'ont couvert, par la suite Allah lui a révélé ce verset Ya ayyuhal muddathir. Anta al-mughatta, ô toi qui es revêtu d'un manteau qui est couvert, qum, yani al-an, indaka amal, wazifa, anta rasul, qum, mada taf'al, fa anzir, anzir innas, khawifuhum billah, azza wa jal. Il dit, ce qui veut dire, lève-toi et avertis, c'est-à-dire, lève-toi, à partir de maintenant, un grand travail t'attend. Tu dois appeler les gens à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. À partir de ce jour-là, tu ne connaîtras pas le repos. Tu vas travailler tous les jours et toutes les nuits et chaque instant, à chaque endroit, tout le temps, tu appelleras les gens à adorer Allah azza wa jal. Qum fa anzir. Lève-toi et avertis. Qu'est-ce que veut dire avertis? C'est-à-dire, avertis les gens que si ils continuent à adorer les idoles, à ibadatul asnam, min dunillah, au lieu d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, avertis-les qu'un châtiment douloureux les attend de la part de celui qui les a créés, eux et leurs idoles. Montre-leur que s'ils continuent dans ce chemin, ils seront voués à la perte, ils seront perdus. Wa rabbaka fakabbir, proclame la grandeur de ton Seigneur. ومعنى التكبير هنا التعظيم أي عظيم الله عز وجل. Proclame la grandeur d'Allah, manifeste-le dans tes actions, dans tes paroles, dans ton comportement. Montre qu'Allah تبارك وتعالى est immense, il est plus grand que tout, il est tout puissant. سبحانه وتعالى. Et appelle les gens à croire à ça et à l'adorer seul. وثيابك فطهر. Purifie tes vêtements. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il ne parle pas des vêtements qu'on porte sur le corps, mais il parle du amal, des actions pieuses qui doivent être purifiées. Elles doivent être pures, on ne doit les faire que pour Allah, Azza wa Jal. Tahir a'malaka min ash-shirk, waj'alha khalisatan lillah. Purifie tes vêtements, c'est-à-dire tes actes du polythéisme, de l'association. Et on peut nommer les actions libas, vêtements. Allah Azza wa Jalla a dit wa libas ut-taqwa dhalika khayr. Wa at-taqwa al-amal as-salih. فسماها لباسا. إذن وثيابك فطاهر أي أعمالك الصالحة طاهرها. Purifie tes vêtements, comme Allah Azza wa Jal a nommé taqwa, c'est-à-dire la piété, c'est un mot qui englobe toutes les bonnes actions. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et le vêtement de la piété est meilleur. Les actions pour l'homme sont comme un vêtement pour lui. D'ailleurs, regardez, quand Adam alayhi salam a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui a enlevé ses vêtements, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait des bonnes actions, c'est comme si qu'il était couvert. Et celui qui fait des péchés, c'est comme si qu'il était découvert. Donc ses vêtements, ce sont les actions. Il faut les purifier. De quoi ? Du shirk billah, de l'adoration d'autre qu'Allah. Écarte-toi de toute souillure. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Et écarte-toi de toute souillure, c'est-à-dire ابْتَعِدْ عَنِ الْأَصْنَامِ وَبَعِدْهَا عَنْكَ. Éloigne-toi de ces idoles et éloigne-les de toi. Jusqu'à la fin des versets qui ont été révélés par Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah, azza wa jal, appelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui donne l'ordre, à partir de la révélation de ce verset, de remplir ce devoir, cette mission, d'appeler les gens à Allah, azza wa jal, et c'est la religion de tous les prophètes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé les gens à Allah à Mecca pendant 10 ans sans aucune autre obligation. Ni la prière, ni la zakat, ni le pèlerinage, ni rien de tout ça. C'est-à-dire les 10 premières années qu'il a passées à Mecca de 40 ans à 50 ans, il ne faisait que de dire aux gens, « Ayyuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. » Ou vous les gens, dites que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et alors vous réussirez. Et les gens lui répondaient, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Va-t-il réduire nos divinités à une seule divinité? C'est vraiment étonnant. Ils n'ont pas accepté. Et le prophète a continué, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 10 ans, 10 ans après, Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé. Il a traversé le premier ciel, deuxième jusqu'au septième, sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré tous les anges. Il a rencontré tous les prophètes. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Il a vu la maison dans laquelle il va vivre au paradis. Tout cela en étant vivant avec son corps. Et ce n'est pas un rêve, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, quand le prophète alayhi salatu wa sallam est monté, la nuit de l'ascension nocturne, quand il est redescendu, il est allé voir Quraysh et il leur a dit, j'ai vu le paradis, l'enfer, les anges, les prophètes, j'ai été à Baytul Maqdis, la maison sacrée, l'endroit sacré qui se trouve en Palestine, et ensuite j'ai traversé les 7 cieux. Et ils ont commencé à rire et à se moquer de lui. Et ils ont été voir Abu Bakr radiallahu anhu. Ya Abu Bakr, sami'ta madha yaqulu sahibuka hadha? Est-ce que tu as entendu ce que ton camarade a dit? Yaqulu bi annahu dhahaba ila al-bayt al-maqdis thumma urija bihi ila as-sama' as-sabi'a wa ra'a al-mala'ika wal-jannata wan-nar. Il dit qu'il a été jusqu'en Palestine en une nuit. Ensuite, il est monté les 7 ciels. Ensuite, il a vu le paradis, l'enfer, les anges et tous les prophètes. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: وإني أصدقه في أعظم من هذا أصدقه في أنه ينزل إليه الوحي من السماء. Abu Bakr a dit, moi je crois à quelque chose de plus grand que ça encore. Je crois qu'il reçoit la révélation qui vient du ciel. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Abu Bakr as-Siddiq. As-Siddiq, ça veut dire celui qui croit en la véracité de celui qui lui a donner une information. Et c'est dans cette nuit-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a légiféré les 5 prières. Et le hadith, il est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Moussa au 5e ciel. Et une erreur peut-être? Au sixième ou au cinquième? Taïeb. Au sixième ciel. Vous êtes sûr? Taïeb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Moussa au sixième ciel. Et donc il est monté, il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a légiféré 50 prières par jour. Ensuite, il est descendu. En chemin, il a rencontré Moussa alayhi salam. Moussa lui a dit, qu'est-ce qu'Allah t'a demandé de faire? Le prophète alayhi salat wa salam lui a dit 50 prières. Moussa lui a dit, retourne. Ton Seigneur, retourne, ta communauté ne pourra pas supporter. Retourne, ta communauté ne pourra pas supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien au sixième ciel, est remonté et a demandé à Allah azza wa jalla de diminuer le nombre de prières. Allah lui en a enlevé 5. Il est revenu. Moussa lui a dit retourne. Allah lui en a enlevé 5. Il est revenu. Et Moussa n'a cessé de lui dire retourne et demande-lui. Retourne et demande-lui. Ta communauté ne va pas supporter. Jusqu'à ce qu'il en a laissé que 5. Moussa lui a dit retourne et demande-lui. Subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wasalam a eu honte de demander à Allah. Alors qu'au début c'était 50 prières et maintenant c'est 5. Et Allah lui a dit avec la récompense de 50. Alhamdulillah ala fadlih. Loué soit Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Et donc, ça c'est l'histoire de la prière. Quand Allah te l'a légiféré. As-salat, la prière, Allah tabaraka wa ta'ala l'a légiféré alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au ciel. Et Allah lui a parlé directement. Alors que pour toutes les autres actions, zakat, hajj, siyam, le pèlerinage, le jeûne, l'aumône, il l'a fait avec par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam qui venait lui dire Amaraka Rabbuk, Awha ilayka Rabbuk, ton Seigneur t'a dit, ton Seigneur t'a révélé. Et regardez, subhanallah, quand il s'agit de la prière, c'est Allah qui a parlé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on délaisse la prière, on néglige la prière. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne. Inshallah, niyaghfira lana wa yahdiyana ilayhi. L'imam a dit wa salla fi makkata thalatha sinin. Idhan istakmala 13 sana. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al madina. L'auteur a dit il persévéra dans cela pendant 10 années, en prêchant l'unicité d'Allah. C'est-à-dire, non. Après ces 10 ans, il fut élevé au ciel lors de son voyage nocturne. C'est là que lui furent prescrites les 5 prières obligatoires. Il accomplit la prière à la Mecque pendant 3 ans, puis il reçut l'ordre de l'Hégire. L'Hégire, c'est l'émigration vers Médine. Donc, on voit bien que le prophète alayhi salatu wasalam est resté à Mecca pendant 13 ans. 10 ans sans autre chose que l'ordre du tawhid. Et ensuite la prière pendant 3 ans, ce qui fait 13 ans. Ça t'enseigne quelque chose de très important. C'est que la plus importante chose qu'on doit apprendre et étudier, c'est le tawhid. C'est le monothéisme, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. La preuve, les compagnons ont vécu 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont appris que ça. Une fois qu'ils ont appris ça, ils étaient prêts à accepter le reste. لِأَنَّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ تَوْحِيدٌ فِي الْقَلْبِ لَيْسَ مُسْتَعِدًا أَنْ يَقْبَلَ غَيْرَهُ. Celui qui n'a pas le tawhid ancré dans le cœur, il n'est pas prêt à accepter le reste. C'est pour cela que les prêcheurs de l'égarement se trompent dans leur façon de prêcher et n'ont pas de baraka. Même si en apparence ils remplissent les mosquées ou les endroits, mais tant qu'ils n'appellent pas les gens au tawhid Et comment est-ce qu'ils pourraient le faire alors qu'ils sont ignorants du tawhid? Il n'y aura pas de baraka dans leur prêche. La preuve, c'est qu'ils remplissent et ensuite ça se vide, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que l'arbre, il ne va rester solide que s'il est enraciné dans la terre avec des bonnes racines. La religion, elle tient si le tawhid, il est ancré dans le cœur, enraciné. Allah Azza wa Jalla a dit: "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah khayrun am man assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nar jahannam?" C'est-à-dire, qui est meilleur? Est-ce que celui qui a bâti sa construction sur la piété d'Allah, c'est-à-dire sur la sincérité, sur le tawhid, sur le suivi de la sunna, est-ce que c'est celui-ci qui est meilleur? Ou bien celui qui a bâti sa construction sur une falaise en dessous de laquelle il y a du feu et de laquelle il est tombé dans le feu? Ibn al-Qayyim rahimahullah, un grand imam, a dit dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a montré l'importance de la connaissance de l'unicité d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Car celui qui construit sa religion et qui veut la tenir solide et ferme, il faut des bases. Quelles sont ces bases? Il doit connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit connaître les noms d'Allah, les attributs d'Allah, l'unicité d'Allah, le tawhid en détail. Il doit connaître le shirk en détail pour s'en préserver. S'il connaît tout ça, sa religion, elle est solide, elle est ferme. Alors que l'autre, c'est comme si qu'il a construit il a édifié une construction, une maison sur une colline ou sur une falaise et il n'y a rien en dessous pour tenir. Et en plus de ça, en dessous de cette falaise, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du feu. Il va vivre un instant comme ça, sa maison va tomber et lui avec va tomber. Celui qui ne vit pas avec le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui n'étudie pas le tawhid, aura forcément un manque. Et c'est la première chose à laquelle on doit prêcher. La dernière chose est l'ensemble de toutes les choses. Et si vous regardez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que depuis le jour où Allah azza wa jalla lui a dit « Qum fa anzir » « Lève-toi et avertis » toutes ces kalimas, toutes ces paroles qui sont sorties de sa bouche, toutes ses actions, tout ce qu'il a fait, c'est pour sauver le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, kalimatu la ilaha illallah. Et après cela, des gens arrivent et disent que on peut apprendre cette science en 5 minutes ou en un jour et on peut passer à autre chose et arrêter de parler de cela, arrêter de parler de ceci et de cela. Les musulmans souffrent, leur sang coule. Au lieu de parler de ces choses-là, vous parlez tout le temps de la même chose. Eh bien, cette compréhension, c'est une erreur, mes frères. Wallahi, c'est une erreur. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu dans une époque où les gens étaient noyés dans le péché. Ils désobéissaient à Allah, azza wa jal. Ils consommaient de l'alcool. Ils commettaient la fornication, zina. Ils tuaient les gens. Ils volaient les biens. Ils tuaient les filles vivantes. Dès que la femme accouchait, elle regardait. Si c'était une fille, l'homme la prenait, la jetait, l'enterrait. Il n'aimait pas les filles. Vous avez vu dans quoi est-ce que le prophète vivait? Quand il est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, qum fa anzir, alaykum salam. Lève-toi et avertis. Appelle les gens à l'adoration d'Allah. Subhanallah. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Allah, qum fa qul linnas bi annahu la yajuzu lahum qatlu al-banat wa la yajuzu lahum shurb al-khumur wal-qatl was-sariqa? Pourquoi est-ce qu'Allah ne lui a pas dit, va dire aux gens qu'il est interdit de forniquer, de voler, de piller, d'assassiner, de tuer les filles vivantes? Pourquoi? Parce que la base de tout, c'est l'adoration d'Allah. Le plus grand crime, La chose la plus mauvaise, c'est d'adorer un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ashirku billah, a'zamu wa akbaru wa akhtar min qatl al-banat, wa in kana qatl al-banat 'aziman 'inda Allah. Même si tu es les filles, c'est très grave chez Allah. Adorer un autre qu'Allah, c'est pire. Celui qui jure par un autre qu'Allah, azza wa jal, et qui dit wa ra's ummi, hein, il dit je jure sur la tête de ma mère, de mon père, la tombe de. Celui qui jure comme ça, c'est pire que qu'assassiner quelqu'un chez Allah. Wallahi wa rabbil ka'ba. C'est pire que de tuer quelqu'un. Si tu vois quelqu'un tuer une personne dehors, qu'est-ce que tu vas dire? Mais si tu vois quelqu'un jurer par un autre qu'Allah, Azza wa Jal, est-ce que tu vas réagir de la même façon? À cause de quoi? À cause des prêcheurs à l'égarement. Ceux qui ne savent pas appeler les gens à l'islam, car ils n'ont pas étudié l'islam, car ils sont fainéants. Ils ne veulent pas étudier, ils veulent juste parler dans la religion, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et ça n'a rien à voir avec la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu pendant 13 ans à Mecca. Il appelait les gens. Qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Et les gens tuent leur fille. Et les gens... Alaykoum salam wa rahmatullah. Les gens assassinent. Les gens volent. Les gens commettent la fornication. Donc ceux qui disent, pourquoi est-ce que vous êtes tout le temps en train de parler du tawhid alors que les musulmans meurent, alors que c'est comme si qu'ils critiquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme si qu'ils disaient, pourquoi il leur a dit, dites la ilaha illallah alors que les filles étaient tuées, alors que les biens étaient payés et les gens étaient assassinés injustement. La réponse c'est que vous n'avez pas compris la da'wa des anbiya, le prêche des messagers. Da'wa, ce n'est pas qu'un mot. Ce n'est pas juste un mot ou un vêtement avec lequel on s'embellit, mais il faut comprendre l'importance de cette fonction, la fonction des prophètes, alayhim salatu wassalam. Et si Allah a choisi les messagers pour la da'wa, c'est pour montrer l'importance de cette chose et que tout le monde ne peut pas le faire. Seuls ceux qui ont al-ilm, la connaissance en détail, peuvent appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu vas aller prêcher et tu vas dire aux gens que l'islam est la vraie religion, ils vont te poser des questions. Tu ne sauras pas répondre, peut-être. Et beaucoup de gens ne savent pas répondre. Ils ont honte de ne pas répondre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans le piège. Ils répondent et ils commencent à parler de choses qu'ils ne connaissent pas. فَيُضِلُّونَ النَّاسِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Ils égarent les gens au lieu de les guider. Pourquoi? Pour plaire aux autres. Pas pour plaire à Allah. Combien de gens veulent aller prêcher Allah Azza wa Jal, mais ne savent même pas prononcer une phrase correctement en arabe? Ayu da'watin hadhi? Quel est ce prêche dont tu parles? Pourquoi tu t'épuises? Tu perds ton temps à aller faire telle et telle chose, alors que suratul Fatiha, tu ignores son sens. Pourquoi tu te donnes un rôle que tu n'as pas, alors que un hadith, tu ne connais pas ce qu'il veut dire. Mada taqulu lillahi azza wa jal. Tu ne t'es même pas sauvé de l'enfer toi-même que tu veux sauver les autres. À l'image de quelqu'un qui veut appeler les gens à Allah, à l'image de quelqu'un, na'am, qui veut aller soigner un malade. Il vient à l'hôpital, il se met à côté du malade, il aimerait tant le soigner. Mais il ne connaît rien de la médecine et il reste debout devant lui. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de le soigner. Soigne-le. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quelle maladie il a. Et toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Soigne-toi et soigne les autres après quand tu seras capable. Nas'alallah azza wa jal min fadli. Cette chose-là, c'est important. C'est très important de la comprendre. Wallahi. Car on vit dans une époque où les gens de la bid'a, les innovateurs, wal'iyadhu billah, essayent d'éloigner les gens de la sunna, d'éloigner les gens du tawhid, en disant ces gens-là sont durs, ces gens-là ne pensent que à faire du mal pour les musulmans, ces gens-là ne veulent que diviser les musulmans, ces gens-là sont wahhabis. et il leur donne des noms et ainsi de suite. Et tout cela n'a rien à voir. Bainana wa bainakum kitabun wa sunnah. Naftah al-Qur'an wa naqra ma dha yaqul. Wa naqra as-sunnah. On lit le Qur'an, on lit la sunnah et on regarde ce qui s'y trouve et on s'y conforme et le met en pratique. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madina. Et après, il a reçu l'ordre d'Allah, comme ça, subhanahu wa ta'ala, d'émigrer vers Médine. Al-Hijra, l'émigration, wa ma adraka ma hiya. Et ô combien est importante cette adoration qui est l'émigration. Al-Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter la ville de Mecca et de se rendre à Médine. Parce que dans la ville de Mecca, il l'empêchait de pratiquer sa religion correctement, comme Allah le voulait. Il l'empêchait de prêcher à la vérité. Il battait les musulmans. Dès qu'il y avait un nouveau converti, il le battait. Ils en ont même tué. Juste parce qu'il disait la ilaha illallah. Il reconnaissait l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Au mois de Rabi' al-Awwal, de l'an 13 de la Bi'tha, c'est-à-dire de l'envoi en tant que messager, le prophète avait 53 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a immigré, il a quitté la Mecque et il a été à Médine. Sallallahu alayhi wa sallam. Mecca était la ville préférée, le meilleur endroit au monde dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'ordre de quitter cette ville et d'aller à Médine pour s'y installer. Ceci après avoir vécu 13 ans à Mecca. Il a dépensé, il s'est fatigué. Il a enduré, sallallahu alayhi wa sallam. Il a appelé les gens à Allah avec science. Il a appelé les gens à Allah, tabaraka wa ta'ala, avec connaissance. Il a enseigné aux gens les bases de la religion, alayhi salatu wa salam. Mais Allah a dit, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ الْغَوْ فِيهِ أي إِذَا سَمِعْتُمْ قِرَاءَتَهُ اِرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ حتى لا تسمعوا قراءته. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ce qui veut dire, et les mécréants ont dit, n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit quand il le récite, ainsi vous vaincrez. C'est-à-dire, ne l'écoutez pas, n'écoutez pas la vérité. Et s'il récite devant vous, faites du bruit, parlez fort, levez la voix, pour que vous ne l'écoutiez pas et pour que les gens ne l'entendent pas aussi. Donc Allah Azza wa Jal l'a demandé de quitter Mecca. Il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et il a quitté. Il s'est rendu à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le chemin, sallallahu alayhi wa sallam, le chemin, il faut savoir que l'émigration a pris 12 jours. C'est-à-dire que pendant 12 jours, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, le prophète marchait de la Mecque vers Médine dans un désert avec des rochers rouges, des pierres rouges. Ceux qui ont été l'ont vu dans la route pendant 12 jours, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont arrivés dans la grotte pour se cacher en cours de route, les koufars de Quraysh sont allés aux trousses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rattraper, parce qu'ils savent que s'ils quittent Mecca et qu'il va s'installer à Médine, les musulmans vont se renforcer et peut-être qu'ils vont revenir après reconquérir la Mecque. Donc ils ont été pour le rattraper. Le prophète était caché dans la grotte avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Et les koufars sont arrivés. Ils se sont rapprochés de la grotte. Si bien que si l'un d'entre eux regardait à l'endroit de ses pieds, il les aurait vus. Ils étaient devant eux comme moi je suis devant toi. Et pourtant Allah Azza wa Jal les a aveuglés. Non pas avec les toiles d'araignée, ni avec les oiseaux ou autres. هذه قصص ضعيفة ليست بصحيحة. Ces choses-là sont infondées. Il n'y a pas la toile d'araignée, ni les pigeons, ni rien de tout cela. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'ils ne l'ont pas vu, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu a dit, Ya Rasulallah, لو أبصروا لو أبص في المعنى لو أبصر أحد منهم إلى قدميه لا أبصرنا هو مسجد الله. Si l'un d'entre eux regarde à l'endroit de ses pieds, il va nous voir. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit ما ظنك باثنين الله ثالثهما هو أبو بكر. Que dis-tu de deux individus dont Allah est le troisième qui les accompagne? C'est-à-dire, est-ce que tu crois qu'on va être perdu? Nous sommes deux, ils sont pleins, mais Allah est avec nous, subhanahu wa ta'ala. Puis il lui a dit, la tahzan, inna Allah ma'ana, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Ta'ammal, médite cette parole. Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit, la takhaf, inna Allah ma'ana, n'aie pas peur, Allah est avec nous. Abu Bakr radiallahu anhu, imam fi tawhid, imam fi ta'zimillah. C'est un imam, un guide, un exemple, un modèle dans la concrétisation, dans la mise en pratique du tawhid. Il ne craint qu'Allah Azza wa Jalla, il n'a pas peur. Il est triste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. C'est tout ce qui le préoccupe. Que s'il le voit, ils feront du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a été attristé. À part ça, il n'a peur de personne. C'est pour ça que le prophète lui a dit « La tahzan, ne t'attriste pas » et ne lui a pas dit « La takhaf »« L'annahu ma kana yakhaf » radiyallahu anhu. Il n'avait pas peur qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée. Puis Allah les a protégés, ils sont arrivés à Médine et ils s'y ont installés. L'auteur a dit « Wal hijratu al-intiqalu min baladi shirki ila baladi l'islam » والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم أي كيف كان حالكم في الدنيا قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. L'auteur a dit: l'hégire est l'émigration d'un pays mécréant vers un pays musulman. L'hégire est obligatoire à tout membre de cette communauté et le restera jusqu'à ce que la dernière heure survienne. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est la traduction. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges recueilleront leurs âmes et diront « Où en étiez-vous dans votre religion ?» Ils diront « Nous étions contraints et maltraités sur terre. » La terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Voilà ceux dont le refuge sera l'enfer, et quelle bien mauvaise destination. Sauf ceux qui étaient vraiment incapables parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'avaient aucun moyen d'émigrer et ne trouvèrent personne pour les guider. Ceux-là, Allah leur effacera leurs péchés, Allah efface les péchés et pardonne les fautes. Maintenant, l'auteur va parler de Al-Hijra, l'émigration. Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit Al-Hijra fil lugha ma'khoudhatun min al-hajr wa huwa al-tark. Hajra bima'na taraka. Hajra baladan ay taraka baladan. Dans le sens linguistique, le mot hijra signifie l'abandon ou encore le délaissement. Wa amma fi shar' فهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Quant au sens religieux de l'émigration, c'est le fait d'abandonner le pays de shirk, de mécréance, pour rejoindre le pays de l'islam. وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل وإنما قلنا على وجه عام من شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر Ce qui est voulu par l'émigration, c'est le fait de délaisser le pays de shirk, de mécréance, pour rejoindre le pays de l'islam. Le pays de mécréance ou de shirk est celui dans lequel on y voit les symboles ou les emblèmes de la mécréance qui sont mis en pratique, et dans lequel les emblèmes de l'islam, les choses qui sont légiférées par Allah, qui sont un symbole de l'islam, ne sont pas mises en pratique, comme l'appel à la prière en groupe, les prières du rite, le Jumu'ah, de façon générale, c'est-à-dire dans tout le pays. C'est-à-dire qu'il dit, rahimahullah, que le pays musulman, islamique, c'est le pays dans lequel entièrement il y a salat al-jumu'ah, il y a l'appel à la prière, il y a la prière du Eid dans tout le pays, sur toute la surface du pays. Il donne cette condition pour dire que dans certains pays de kuffar, il y a ces choses-là, mais chez des minorités, dans quelques coins, mais pas dans tout le pays. Ce n'est pas un symbole pour le pays entier. C'est comme ça qu'on reconnaît un pays musulman. Il dit que les autres pays sont les pays du kufr, de la mécréance. Puis il dit Al-hijratu wajiba ala kulli mu'min la yastati'u idhara dinihi fi balad al-kufr fala yutimu islamahu idha kana la yastati'u idharahu illa bil-hijra wa ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. L'immigration est une obligation qui incombe à chaque musulman ne pouvant pas mettre en pratique tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a légiféré dans le pays de mécréants. Ainsi, son islam ne deviendra complet que lorsqu'il mettra en pratique de façon apparente et non cachée sa religion. Car le moyen qui mène à l'obligation est lui-même une obligation. Donc si pour mener cette obligation, il faut employer ce moyen de quitter cet endroit, quitter cet endroit devient une obligation. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Le Cheikh dit dans ce verset, celui que vous venez d'entendre, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une preuve que ceux qui n'ont pas émigré malgré la capacité qu'ils avaient à le faire, les anges qui retireront leurs âmes leur diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Quant à ceux qui étaient incapables, Allah Azza wa Jal leur pardonnera car il n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Les savants du tafsir, et vous retournerez si vous voulez au tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah, ont dit que ce verset est révélé à des personnes qui n'ont pas quitté Mecca alors qu'elles pouvaient le faire. Elle devait sortir de Mecca et rejoindre les musulmans à Médine. Mais elles sont restées à Mecca. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset pour blâmer ces personnes. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. ظَلِمْ يَنْفُسِهِمْ أي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ L'insan يَظْلِمُ نَفْسَهُ Ils se sont fait du tort à eux-mêmes en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges leur diront: où en étiez-vous sur terre? كيف كان حالكم في الدنيا؟ لماذا عصيتم الله؟ Pourquoi avez-vous désobéi à Allah? Comment étiez-vous sur terre? Ils donneront leur argument et Allah le rejette. Subhanahu wa ta'ala. Donc à la base, il est descendu pour ces gens-là. Mais la règle du tafsir dit Al-ibra bi'umumi lafzi la bi'khususi sabab. C'est-à-dire, nous prenons en compte la généralité du texte pour appliquer le jugement, non pas la cause de la révélation. On prend en compte pour appliquer le jugement la généralité du texte, pas la cause de la révélation. Car si on dit que la cause de la révélation de ce verset, ce sont ces personnes qui n'ont pas émigré, on dirait, c'est la cause. Mais si on dirait que ce verset ne concerne que la cause pour laquelle il a été révélé, donc c'est comme si qu'il n'est plus valable. Donc si on dit cette parole, tous les versets qui sont révélés pour des causes ne sont plus valables? La réponse est non. Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran pour nous éduquer, pour qu'on prenne exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs dans lesquelles sont tombés autres avant nous. Wa qawluhu ta'ala, ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. قال البغوي رحمه الله تعالى عليكم السلام سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. Deuxième verset. La traduction. Ô vous mes créatures qui avez la foi, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. L'auteur a dit, Al-Baghawi, imam al-mufassir, un grand exégète du Coran, a dit, a expliqué ce verset ainsi. Ce verset est descendu au sujet des musulmans de la Mecque qui n'avaient pas émigré. Allah les a alors interpellés au nom de la foi. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit, Antum mu'minun, kana yambari, antu hadiru. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل الإيمان يهاجرون معه. Allah les a appelés par la foi, c'est-à-dire vous êtes croyants, alaykoum salam. Et vous les croyants, de par votre foi, vous auriez dû émigrer avec le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est ainsi qu'Allah عز وجل les a appelés afin qu'ils émigrent. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on reprend la semaine prochaine, inshallah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.